Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous.
Fondateur et gérant de l'agence Francophone, une agence immobilière spécialisée dans l'immobilier en Australie depuis plus de 10 ans, Lionel Roby nous partage dans cet épisode sa vision du marché de l'immobilier en Australie et les différentes possibilités que celui-ci offre aux investisseurs. Recherche de rentabilité locative, investissement patrimonial sur le long terme, recherche de plus-value, le marché de l'immobilier australien propose de nombreuses possibilités. Forte de son expérience, Lionel a su développer un réseau de partenaires entièrement francophones basés en Australie, ce qui facilite grandement l'investissement pour les personnes non anglophones. Il nous explique également toutes les ficelles de la fiscalité immobilière australienne, tant celle des revenus fonciers que celle de la plus-value à la revente ou à la succession. Découvrez enfin les coulisses de la gestion locative en Australie, dont le fonctionnement s'avère, sur certains aspects, bien plus favorable aux propriétaires qu'aux locataires, comparativement à la France, ce qui représente un avantage de taille lorsqu'on est investisseur. Cet épisode du podcast est extrêmement riche d'enseignements, alors profitez-en car c'est une vraie mine d'informations pour tout investisseur qui souhaite diversifier son patrimoine et connaître un autre marché que celui de sa région ou de son pays. Je ne vous en dis pas plus, laissons place à Lionel Roby.
Lionel Roby, bonjour, bienvenue sur Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Alors, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir faire cette interview avec toi, puisque toi, tu es spécialisé dans l'immobilier, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, et surtout en Australie, depuis plusieurs années maintenant. Tu as créé l'agence Francophone, qui est une agence immobilière spécialisée dans l'immobilier en Australie. Donc, tu es gérant et directeur de cette agence aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours et nous dire ce qui t'a amené à créer cette agence immobilière?
Donc moi, à l'origine, j'ai une formation d'école de commerce en Nouvelle-Calédonie, l'EGC. Donc déjà, qui m'a ouvert pas mal d'horizons, que ce soit au niveau marketing, finance, droit, etc. Ensuite, j'ai été embauché dans un cabinet d'ingénierie financière, donc toujours un peu le même domaine. Et après, à la banque, où j'ai pu un peu goûter à l'immobilier. Et en 2006, avec mon épouse, nous avons décidé de partir en Australie pour D'accord. un petit peu voir autre chose, tout simplement. Et donc, il y a une dizaine d'années, on a monté cette agence immobilière. Quand je dis on, c'est avec mon ancien associé, Alex Cherrier, qui est décédé il y a 6 ans.
D'accord.
Donc voilà, en gros, mon parcours.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette agence? C'était déjà prévu à l'avance?
Non, en fait, c'était
une opportunité là-bas.
Une évolution naturelle, puisque quand j'étais à la banque, j'avais beaucoup de clients.
Okay.
Et parmi ces clients, il y a des gens qui ont acheté en Australie et qui m'ont mis en relation justement avec Alex Cherrier, qui est devenu par la suite mon associé. Donc les choses se sont faites complètement naturellement.
D'accord.
C'est une suite logique. Donc j'ai été en Australie avec un portefeuille de clients déjà bien étoffé. Et je savais que ces gens-là potentiellement étaient intéressés pour investir dans des biens immobiliers autres qu'en Nouvelle-Calédonie.
D'accord. Du coup, ton agence, l'agence francophone, elle a accès à un réseau de professionnels sur place?
Alors, je suis le seul. Je suis absolument le seul à faire ça sur toute l'Australie, okay. un pays de 25 millions d'habitants. Tous les professionnels avec qui je travaille sont francophones. Ça va du notaire, en passant par l'avocat, en passant par le banquier, en passant par l'expert comptable, en passant par tous les corps de métier qui sont liés à l'immobilier avec qui je travaille, sont des professionnels français ou francophones installés en Australie.
Ah ok, d'accord, c'est excellent.
Donc le service est assuré 100% en français.
Ok, donc les gens qui investissent ont vraiment un suivi comme voilà. s'ils étaient en France, quoi, je dirais.
Toute la communication se fait en français, on communique entre nous puisqu'on travaille tous ensemble, tout en étant indépendants et spécialistes chacun dans notre domaine.
Okay.
Donc un client qui peut aller voir le comptable pour des raisons fiscales peut après venir me voir parce que le comptable lui aura parlé de moi. Ou tout comme moi, je peux parler à un de mes clients, lui dire « bah t'as des problèmes de testament, va voir tel juriste, il parle en français,
okay.
ils s'occuperont de toi. » Donc on est en
c'est un vrai réseau.
C'est un réseau. C'est du réseau pur et dur, et on n'est pas beaucoup à avoir nos spécialités respectives en français basé en Australie.
Et ouais.
Le comptable, par exemple, c'est le seul commissaire aux comptes qui a le diplôme français et australien.
Okay.
Le seul pour toute l'Australie.
Ok, d'accord.
Donc c'est vraiment un réseau très particulier. C'est vraiment ma force.
Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le marché de l'Australie? J'imagine qu'il est différent d'une ville à l'autre. On parle d'Australie, c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent de métropole, c'est à plus de 20 000 km. On peut penser à Sydney, on peut penser à des grosses villes comme Melbourne. Toi, tu es basé en fait sur différentes villes de la côte Est essentiellement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents types de marchés de l'immobilier là-bas? Et comment évoluent un peu ces marchés? Est-ce que tu peux nous raconter?
Alors déjà, il y a deux grandes catégories d'investissement. La première, c'est le résidentiel.
Yes.
Donc c'est tout ce qui est appartement, hein, pour mettre en location, pour vivre dedans, pour les études, qu'importe, résidentiel.
Ouais, ouais.
Et vous avez ce qu'on appelle le commercial. Donc c'est tout ce qui est lié à une activité professionnelle. Donc des bureaux, des docks, des locaux commerciaux, des parkings, des docks, voilà. Donc il y a déjà ces deux points-là. Ensuite, faire une analyse du marché en Australie de façon globale, c'est impossible, parce que d'une rue à l'autre,
ouais,
dans un même quartier, vous pouvez avoir des prix qui sont complètement différents.
Ouais, okay.
Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'analyse possible dans la généralité. Par contre, je peux donner des grandes lignes.
Ouais.
La grande ligne, par exemple, sur Sydney, c'est qu'effectivement, les prix vont vers la baisse parce qu'il y a eu presque 7 années consécutives avec des hausses de 10%.
D'accord.
Donc, le marché était bouillant, littéralement bouillant. Donc, quand c'est bouillant, c'est dangereux. Et quand c'est dangereux, c'est pas bon. Donc, le gouvernement
Qu'est-ce qui a amené, en fait, à cette situation? Parce qu'en fait, les gens investissaient beaucoup à Sydney,
c'est
ça, depuis plusieurs années.
Voilà.
Il y a eu des investissements des étrangers aussi.
Trop d'investissements étrangers.
Oui, les prix ont flambé.
Les prix ont flambé. Donc là, aujourd'hui, on revient de loin. C'est-à-dire que le marché aurait pu être une bulle immobilière. Ça ne l'a pas été parce que le gouvernement a agi. Et donc, aujourd'hui, le marché sur Sydney est en train de se tasser. De baisser dans certains quartiers, de se tasser dans d'autres, ça dépend toujours pareil de l'endroit.
D'accord.
Mais effectivement, sur Sydney, les choses se calment et c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, sur Melbourne, Melbourne a toujours 2 ou 3 ans de retard sur Sydney, donc ils sont là maintenant en train de se calmer, en train de se stabiliser.
D'accord.
Brisbane est en plein boom. Et après, il y a d'autres destinations où il y a vraiment des gros potentiels parce que on est resté sur des prix qui n'ont pas évolué depuis 10 ou 15 ans.
D'accord.
Et du coup, il y a des écarts qui sont énormes. Et donc, qui dit écart, dit potentiel. Qui dit potentiel, dit investissement intéressant.
Ok. Là, tu parles de quoi? De la Gold Coast ou...
Alors,
enfin, je connais rien, justement.
La Gold Coast est un marché complètement à part.
Okay.
Pour moi, la Gold Coast, c'est uniquement destiné à des gens qui souhaitent se faire plaisir. Certainement pas pour y investir.
Ok, la Gold Coast, c'est géographiquement par rapport à Brisbane.
Donc c'est la partie, c'est un petit peu au sud de Brisbane.
Okay.
C'est la partie qui est la partie mer, puisque Brisbane est plus vers l'intérieur.
Okay.
Et pour moi, c'est un petit peu, c'est la Côte d'Azur.
D'accord.
Donc il n'y a pas de réalité économique qui est derrière. Par contre, effectivement, c'est agréable. Il y a des parcs d'attractions, il y a des grandes plages.
Ok, c'est pour
c'est pour les vacances.
Ou...
Voilà. Donc là, oui. Okay. À titre personnel, non, à titre d'investissement.
Ok, d'accord. Et tu disais Brisbane est en plein boom. Ça signifie quoi exactement?
Ça signifie qu'en ce moment, il y a des flux migratoires inter-États qui sont énormes. Dit autrement, les gens quittent Melbourne, Sydney pour aller sur Brisbane.
Ok.
Je parle d'Australiens.
Les Australiens, ouais.
Donc, ça en dit long sur ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire qu'il y a de l'emploi, il y a des projets, il y a du travail.
J'ai entendu qu'ils créent un hôpital...
Il crée énormément de choses.
Effectivement,
au nord de Brisbane, il y a le plus gros hôpital d'Australie qui est en cours de livraison maintenant. La construction est quasiment finie, donc c'est énorme. Mais c'est surtout que sur cette région, il y a eu le plus gros budget en infrastructure jamais voté par l'État australien. Et c'est pas à Sydney, c'est pas à Melbourne, c'est pas ailleurs, c'est à Brisbane.
Il y a une volonté politique aussi que ça se développe
là-bas. Exactement. Donc il y a un boom économique. Et il faut le saisir, c'est maintenant.
Du coup, j'imagine que c'est intéressant d'investir à Brisbane, peut-être?
Brisbane ou ailleurs. Une fois de plus, ça dépend des marchés. Ça dépend surtout du client, de ce qu'il souhaite faire. S'il a une vision plutôt orientée vers le rendement, s'il a plutôt une vision orientée vers la plus-value, s'il a plutôt une vision d'une acquisition qui soit recyclable, c'est-à-dire aujourd'hui c'est un investissement, mais demain ça sera peut-être pour sa retraite. Chaque cas est particulier, le budget est particulier, les demandes sont particulières, et je m'adapte en fait au client plutôt que d'adapter mes produits au client.
D'accord. Du coup, parlons-en. Imaginons, tu as un profil investisseur, un métropolitain ou un calédonien qui vient et te voir et qui cherche plutôt un investisseur qui cherche plutôt un investissement long terme qui va conserver avec une rentabilité intéressante.
Deux options. La première, c'est ce que j'appelle du commercial surciné qui est très rentable.
Commercial, d'accord.
Donc c'est des bureaux.
Commerciaux, des bureaux.
Essentiellement des bureaux au centre-ville.
Et carrément surciné.
Surciné au
centre-ville.
Malgré
les prix.
Alors, ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, les bureaux sont moins chers au mètre carré que le résidentiel. Et les bureaux sont une niche dans le sens où, en tant qu'investisseur étranger, on a le droit d'acheter des bureaux d'occasion, alors que sur les appartements, vous êtes obligé d'acheter du neuf.
Ah, d'accord.
Donc, c'est une niche que peu de gens connaissent et maîtrisent. Et donc, les prix sont relativement bas, les rendements sont intéressant, voire très intéressant. On parle de minimum 5% net après toutes les charges liées à l'investissement.
Okay.
Et hors plus-value. Donc c'est du très bon placement. Avoir du 5% net sur de la pierre aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on a ça.
Ouais, tu parles avec délégation à une agence pour la gestion.
Voilà,
tout clé en main. Quoi.
Tout clé en main.
Okay.
Donc, ce que je vends, c'est avec déjà un locataire, un bail en place, etc. Donc, il n'y a aucune surprise.
Ok.
Donc, ça, c'est la première option si le budget est un petit peu serré. L'inconvénient de l'achat de bureaux, c'est que il n'y a pas énormément de plus-value sur le long terme.
Ok.
Donc, on gagne sur le court terme, mais ça génère de l'argent, mais ça ne génère pas de plus-value. Donc, quand ça génère de l'argent, malheureusement, ça génère une fiscalité. Et quand ça génère une fiscalité, ça obère le rendement. Alors que sur un appartement, on gagne pas grand-chose sur les loyers.
Ouais.
Mais par contre, la valeur intrinsèque du bien, elle augmente avec le temps.
Okay.
Or, la valeur du bien n'est pas fiscalisable en Australie. On n'est pas imposé sur la plus-value.
Ok, bah, c'est partie des questions que je vais te poser aussi.
Voilà, donc c'est un choix.
Okay.
Donc le résidentiel, on gagne pas grand-chose, mais ça prend de la valeur. Et on paye pas beaucoup d'impôts puisqu'on gagne pas grand-chose. Le commercial, on gagne beaucoup d'argent. Mais on paye beaucoup d'impôts et ça prend pas beaucoup de valeur. Donc c'est...
Du coup, tu es plus imposé en louant des locaux commerciaux.
Exact.
Sur les loyers, en fait, des locaux commerciaux.
Alors, c'est plus imposé parce qu'on gagne plus, en fait.
Ok. Mais le taux est identique.
Le taux est identique. C'est pas la question, elle est pas à ce niveau-là. La question, elle est au niveau du rendement, c'est-à-dire par rapport à un montant investi, qu'est-ce qui rapporte le plus? Clairement, c'est le commercial. Mais également,
ouais,
là où vous payez plus d'impôts, c'est sur du commercial puisque vous gagnez plus.
Et ouais. Tandis que quand tu vas revendre ton bien immobilier pour du résidentiel, tu auras peut-être moins gagné, mais à la plus-value, finalement, tu vas peut-être te rattraper. Quoi.
Bien plus, oui.
Okay.
Donc, c'est des choix. Du cash ou du long terme.
Parce que l'impôt sur la plus-value, imaginons si tu payes plein pot en métropole, aujourd'hui, c'est 37% sur le bénéfice, qui est quand même important. En Australie,
on a un impôt sur la plus-value, mais... c'est le montant de la plus-value qui va déterminer la tranche fiscale.
D'accord.
Parce qu'en fait, la plus-value là-bas est considérée comme un revenu. Donc, de telle tranche à telle tranche, vous payez X%, telle tranche supérieure, X%, etc.
Okay.
etc.
Ah, c'est plutôt logique.
Donc, en fonction de la plus-value encaissée, un impôt sur la plus-value sera appliqué. Bien sûr, il y a des exceptions, notamment si le bien a été utilisé à titre personnel. Je pense à des gens qui achètent des résidences secondaires, des résidences des appartements pour les vacances ou pour les enfants qui sont étudiants.
Ouais.
Et s'ils revendent, comme ils l'ont utilisé à titre personnel, donc il n'y a pas eu de revenu locatif, ils ont une exonération partielle de l'impôt sur la plus-value.
Ok, d'accord, excellent. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dirais à un investisseur, imaginons un Parisien, un Bordelais, un Lyonnais ou même un Nouméen, qui souhaite investir, quel intérêt il a à investir?
Alors, le gros intérêt, il n'est pas au niveau de la fiscalité, puisqu'il y a des conventions fiscales entre l'Australie et la métropole, c'est-à-dire que les impôts qui sont payés en Australie ne le seront pas en métropole, et les impôts qui seraient payables si l'investissement avait été en métropole ne sont pas payables en Australie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une double imposition.
Ok. Ça, c'est une bonne chose déjà.
C'est pas à ce niveau-là que la différence se fait. il y a deux grands points énormes d'un investissement en Australie qui se fait par rapport à la métropole. Le premier, c'est que au niveau de la succession,
yes,
en Australie, vous donnez en succession ce que vous voulez à qui vous voulez. Un peu comme Johnny Hallyday. C'est, pour moi, c'est l'exemple parfait.
Okay.
C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, je donne tout à la personne avec qui je vis et je donne rien à mes enfants. Ou je donne tout à un enfant mais pas à l'autre parce que j'ai eu des problèmes. Ou je donne tout à mon ancienne épouse parce que ma nouvelle épouse aura d'autres choses ailleurs. Qu'importe. Faites ce que vous voulez. Donc ça peut être aussi un gros avantage, notamment pour les couples homosexuels.
D'accord.
Puisque jusqu'à présent, c'est pas évident de faire une succession entre conjoints homosexuels. Ça peut être aussi intéressant quand il y a, par exemple, une succession. Donc un patrimoine familial que les ayants droit, dont les héritiers n'ont pas forcément envie de partager avec leurs nouvelles épouses. C'est-à-dire que, bon, c'est un certain patrimoine familial. On veut que ça reste en famille.
Okay. T'es beaucoup
donc,
plus
entre frères et sœurs, ils achètent un bien ici et ils suppriment les... ils coupent les ponts, entre guillemets, avec les pièces rapportées.
Ok, ok.
Ça permet de protéger...
Ouais, mais c'est clairement c'est clairement utile, hein, dans certains cas.
Voilà, ça permet de protéger, en fait, la décision du propriétaire. S'il a envie de donner ça à son agent immobilier préféré, ben très bien, la famille pourra pas s'y opposer.
Ok. Est-ce qu'il sera imposé au moment de la succession? Est-ce qu'il y a un impôt, comme on pourrait parfois le retrouver en France?
Alors, en Australie, l'impôt sur la succession n'existe pas. Maintenant, ça dépend du lieu de résidence du propriétaire qui déterminera si oui ou non il y a une fiscalité sur la succession. Ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui,
okay, là où tu habites, en fait,
résidence fiscale.
Ta résidence fiscale. Okay.
Voilà.
Par exemple, si moi je suis, j'investis en Australie, mais j'habite à Nouméa, je suis résident fiscal.
Dans ce cas-là, ce sera le taux.
C'est le taux de la Calédonie.
De Nouvelle-Calédonie qui s'appliquera.
D'accord. Ça, c'est lié à ces conventions, justement.
Voilà. Okay. Donc aujourd'hui, tout est sur Internet, donc les impôts savent tout. Donc il y a rien à cacher.
Okay.
Donc c'est cet aspect de liberté de succession. Et il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est la réglementation qui, quelque part, chez nous, protège l'investisseur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a une multitude, un arsenal même, de lois qui protègent l'investisseur contre son locataire. Les locataires indésirables en Australie, c'est quasiment impossible.
Okay.
On a un fichier national des locataires. Donc, toutes les locations qui ont eu lieu précédemment pour un locataire potentiel, on le voit. On voit si ça s'est bien passé, qui s'est occupé de la location précédemment, comment l'appartement a été rendu, est-ce qu'il y a des arriérés, est-ce qu'il y a eu des jugements, est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela. Donc un peu comme la Banque de France.
Okay.
Donc si on a un locataire qui a été indésirable il y a 10 ans dans une autre ville d'Australie, on le sait tout de suite. Donc ça, les gens le savent et se tiennent à carreau.
Ouais.
Ça, c'est le premier point.
C'est clairement une grosse différence.
C'est une très grosse différence. Chez nous, pour expulser quelqu'un, en général, il faut 3 semaines, 1 mois maximum.
Ouais. Chez nous, donc en Australie.
Pas 2 ans,
c'est ça,
comme à métropole.
C'est
ça. Donc, la loi est clairement en la faveur du propriétaire.
Il y a un rééquilibrage, on va dire.
Ben, c'est chez vous, donc il n'y a aucune raison qu'on protège la personne.
Par rapport à la France, qui est clairement en faveur du locataire.
Je ne rentrerai pas dans cette discussion. Les gens votent pour des gens qui appliquent des lois. Donc après, que ces lois leur plaisent ou pas, c'est quelque part, ça n'est que le résultat de leur vote.
Ouais.
Toujours est-il que chez nous, donc, les locataires ont des droits, bien sûr, mais ils ont surtout des obligations vis-à-vis du propriétaire, et s'ils ne respectent pas leurs obligations, on les met à la porte, ils sont marqués au fer rouge et ils ne trouveront plus jamais de location. Pire, les fichiers de mise en location sont liés directement au fichier bancaire.
Okay.
C'est-à-dire, le gars ne paye pas son loyer, la banque le sait, elle sait que c'est un mauvais payeur, et du coup, quand il va venir pour emprunter, elle estimera qu'il y aura un risque plus important, elle lui donnera un taux d'intérêt plus important que si c'est quelqu'un qui paye en temps et en heure à la fois son loyer, mais c'est également valable pour les factures d'électricité, d'eau, de téléphone, etc. Vous payez pas, vous êtes mis en liste rouge.
C'est clairement un avantage, parce que le risque qu'on a en investissant en France aujourd'hui, justement, t'as une partie gestion du risque locatif qui est énorme, avec un interrogatoire des locataires, etc., que t'as pas, justement.
On se pose pas de questions.
C'est beaucoup plus léger, j'imagine.
Le gars, s'il a des gamelles, on le voit tout de suite. Mais tout de suite.
Et ça me fait penser au système aux États-Unis, c'est un peu
C'est le même principe. Donc le gars, il paye pas, on envoie ce qu'on appelle un shérif. Changement de clé. Et la personne qui est dedans, elle a 2 semaines pour récupérer ses affaires. Au bout de 2 semaines, c'est mis soit en dépotoir, soit en storage.
Yes.
Et si elle récupère pas ses affaires, on vend ça aux enchères et l'argent permettra de payer les frais inhérents de tout le monde. Donc aucun intérêt à faire ça, aucun.
Est-ce que tu peux nous parler des frais de notaire, justement les frais qu'il y a, parce qu'ils sont quand même énormes. Si on peut comparer justement les avantages qu'ont les gens entre la France, il y a des frais de notaire quand même importants, que ce soit en France ou en Nouvelle-Calédonie.
Alors, avant c'était intéressant à ce niveau-là, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, les frais d'acquisition, ce qu'on appelle faussement les frais de notaire, mais qui sont en fait les émoluments du notaire, mais également les droits d'enregistrement, tout ce qui est timbre fiscaux, tout ce qui est lié à l'enregistrement du titre, etc. Donc, tout ça, on met ça dans une espèce de grand bol qu'on va appeler les frais de notaire.
D'accord.
Ces frais-là représentent environ 10%, ce qui est à peu près pareil qu'en Nouvelle-Calédonie et en métropole.
Et il y a un changement de réglementation, du coup, c'est à quel niveau, à quel moment?
Ben, tout simplement parce que l'État australien s'est rendu compte qu'il y avait une grosse manne d'argent qui venait de l'étranger. Et ils se sont dit, on va mettre des impôts supplémentaires sur les étrangers.
Okay.
Moi, en tant qu'Australien, je ne paye que 4,5%.
Ouais, c'est ça. C'est plus le cas du tout pour les étrangers.
C'était le cas avant, ça ne l'est plus.
Ok. Donc, c'est plus un avantage. Je me souviens, la première fois qu'on s'était vu, c'était encore le cas.
Ouais.
J'avais bien noté cet avantage et effectivement,
ça l'est plus.
Ouais. Okay.
Et encore, le discours, il est un petit peu général. Parce que ces frais-là dépendent des États. Chaque État a sa façon de calculer qui est différente.
Yes. C'est une vraie forêt chez toi, c'est quoi, c'est les perruches de la chaîne? Parce que les gens entendent certainement au micro, là.
C'est le plaisir d'avoir un jardin sympa.
C'est sympa, ouais. Du coup, au niveau de la fiscalité, sur l'impôt foncier, je dirais,
alors,
sur l'impôt sur les locations.
Il y a plusieurs choses. La notion de fiscalité, il faut vraiment comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que en Australie, on paye beaucoup d'impôts en termes de pourcentage, mais on paye beaucoup d'impôts sur un montant qui a eu beaucoup de soustractions. C'est-à-dire que vous avez des revenus bruts, beaucoup de charges déductibles, et c'est sur le revenu net, donc après toutes ces déductions, que vous avez beaucoup d'impôts. Donc vous payez beaucoup de pas grand-chose.
Okay.
Et souvent, les gens se focalisent sur les pourcentages d'imposition, alors qu'ils devraient savoir sur quelle base sont calculés ces impôts. Payer beaucoup de pas grand-chose, ça reste pas grand-chose.
Okay.
Donc, la fiscalité est importante en Australie, bon, certes, beaucoup moins importante qu'en métropole, parce que quel pays est...
Ouais.
Bref. Mais, si vous voulez, il y a beaucoup de déductibilités qui sont appliquées en amont, avant le calcul de la fiscalité.
Quel exemple on peut citer sur les charges qu'on peut déduire, justement? J'imagine.
Donc, il y a deux choses vraiment essentielles. Je parle de la fiscalité sur les revenus, pas des fiscalités sur l'acquisition et la revente.
Donc. Ouais, les revenus, les loyers, quoi.
Voilà.
Les revenus immobiliers.
Donc, la fiscalité sur les revenus locatifs, est très différente de celle que l'on a en métropole. À savoir, c'est une fiscalité qui se rapproche beaucoup d'une fiscalité d'entreprise. Le fisc australien part du principe que vous achetez un bien neuf, et là je parle du résidentiel, et donc qu'à ce titre, vous avez le droit d'amortir le bien. La notion d'amortissement, elle existe dans le système français, c'est quand vous êtes en société civile immobilière et que vous avez un locataire qui a une activité professionnelle, donc qui est soumis à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et dans ce cas, uniquement dans ce cas, et que le bien est neuf, vous avez le droit de faire un amortissement. Alors un amortissement, c'est calculer une vétusté du bien. Alors, tout ça, c'est un peu technique, mais c'est essentiel de comprendre les grandes données.
C'est très intéressant.
Donc en fait, on part du principe que le bien vieillit, et ce vieillissement, on le quantifie, et on le déduit des encaissements, donc des loyers. Et ça, cette notion-là n'existe pas en métropole, sauf dans le cas de la SCI à l'IS.
Il y a un cas particulier encore, je ne sais pas pour combien de temps encore, sur le statut loueur meublé non professionnel.
Tout ça n'existe pas.
Ouais. et uniquement en meublé, pas en location nue en métropole.
Nous, ouais. Que ce soit nu, meublé, court terme, long terme, qu'importe.
T'as ton amortissement.
L'amortissement est lié au bien. Yes. Il y a un tableau d'amortissement qui est fait pour une durée de 20 ans, un peu qui est une annexe du titre. Et vous savez, pendant les 20 prochaines années, exactement combien vous allez pouvoir déduire de vos revenus locatifs. Ce montant-là est énorme. En général, il représente 3 à 4 mois de loyer. Donc c'est comme ça, si je vous disais, il y a 3 à 4 mois de loyer par an qui sont non imposables. Uniquement à ce mécanisme. Ensuite, on a l'équivalent d'une défiscalisation. Okay. C'est-à-dire que beaucoup de clients prennent des crédits en Europe pour avoir des taux qui sont très bas. Et sous certaines conditions, ces taux-là, les intérêts payés donc en métropole, yes, pour le crédit qui a servi à financer le bien en Australie, sont déductibles en Australie.
Ah, excellent.
Donc les gens payent la traite en métropole puisqu'ils ont des revenus en euros. Ils payent un crédit en euros.
Sont déductibles.
Mais les intérêts payés en métropole, en euros, sont impactables sur les revenus locatifs en Australie.
Ok, donc, c'est bien, ça marche dans les deux sens.
Ça s'appelle de la défiscalisation. Ouais, et ça marche effectivement, donc le principe étant de dire, le fisc australien part du principe que vous payez quelque chose pour obtenir ce bien, donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas considéré comme une charge.
Okay.
Donc je reviens dessus, l'amortissement, les intérêts, et ensuite tout ce qui est lié à la gestion quotidienne du bien, c'est-à-dire les frais d'agence, les frais municipaux, l'assurance, la comptabilité...
Ouais.
Les petites charges d'entretien, les rénovations, etc., tout est entièrement déductible.
Okay.
Et sur ce qui restera après toutes ces déductions, c'est cette base qui sert de calcul pour l'imposition fiscale.
Ouais, donc effectivement, tu peux presque annuler ton impôt. Enfin, si...
Mieux que ça. En fait, les clients qui ont effectivement des crédits avec un apport pas très important peuvent bénéficier donc de ce qu'on appelle les ARD, des amortissements réputés différés. C'est-à-dire qu'ils vont créer artificiellement une perte fiscale les premières années. Et cette perte fiscale dans le système australien, elle est reportable et cumulable indéfiniment. Donc, en fait, ils vont créer une perte fiscale sur les 2-3 premières années.
Okay.
Et au bout de la troisième année, parce que le loyer aura augmenté, parce que certaines charges auront baissé, etc., ils seront entre guillemets imposables. Mais sauf que comme ils auront cumulé de la perte fiscale les années précédentes,
ouais,
on va utiliser cette perte fiscale pour contrebalancer l'année où on est en gain fiscal.
Okay. Ça me fait penser un peu au déficit foncier.
Exactement.
Ça correspond un peu
exactement
à ça.
Exactement. Hein. Sauf okay que là, on est sur l'ensemble de l'opération. Donc, okay, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens, les trois premières années sont en déficit fiscal. Après, ouais, ils mangent ce déficit fiscal sur les deux années suivantes. Donc, on parle de 5 ans. Et au bout de 5 ans, là, ils me rachètent un bien et ils recréent un déficit fiscal.
Okay.
Parce que chez nous, le déficit fiscal n'est pas calculé sur le bien, mais sur la personne.
D'accord.
Donc, si vous avez un bien qui est en déficit fiscal et l'autre qui est en position d'imposition...
C'est des vases communicants, quoi.
On fait communiquer, c'est okay, le total des deux. Donc, ça fait que les gens rachètent pour recréer du déficit au bout de 4-5 ans.
En gardant le premier bien ?
Évidemment.
Ok.
Évidemment.
Ouais, excellent.
Donc, voilà la mécanique.
Ok, tu peux trouver des petites stratégies, justement, pour...
Voilà.
Optimiser la fiscalité.
Alors, je parle pas d'optimisation fiscale. C'est uniquement un système qui est différent d'une autre.
Ok. Ouais.
Qui marche comme ça. Ça n'a pas été fait dans une volonté d'optimisation. C'est parce qu'ils ont pas la même vision des choses que nous.
Ah, ok, je comprends. Ouais.
C'est culturel presque.
Ouais, ouais.
L'impôt chez nous en Australie, ça n'est pas une punition. C'est un outil. Et ça, c'est une philosophie complètement différente.
C'est pas mal. Ok, super. Je parlais aussi de la diversification, l'intérêt justement de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Ça peut être aussi l'idée d'investir.
Clairement.
Tout est bien.
100% de mes clients.
Une ville qui a un gros problème dans la ville, perte d'emploi, bah forcément, si tu as 10 biens là.
100% de mes clients sont des gens qui font de la diversification. C'est-à-dire qu'ils sont déjà propriétaires d'investissements immobiliers dans leur lieu de résidence respectif.
Ouais, c'est ça.
100%. Je n'ai pas une seule personne qui me dit c'est mon premier appartement, je l'ai acheté avec vous en Australie. J'ai que des investisseurs aguerris.
On parlait des inconvénients justement, enfin des contraintes pour les étrangers. Je disais qu'on pouvait pas investir dans l'ancien. qui fait qu'on a une autre manière d'aborder l'investissement, surtout si on a l'habitude d'acheter de l'ancien à rénover pour justement avoir des bonnes rentabilités. Là-bas, on peut pas le faire.
Alors,
sauf peut-être dans les locaux commerciaux.
Exact. Donc, en fait, la philosophie australienne est la suivante. Vous voulez investir dans notre pays, très bien. Nous, gouvernement australien, on va gérer les flux et on va vous diriger vers des projets qui créent de la valeur ajoutée pour notre pays. Qu'est-ce qui crée de la valeur ajoutée en ce moment quand vous faites de l'investissement? Ben, c'est l'immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites travailler les électriciens, les plombiers, vous faites travailler les entreprises de BTP, les architectes, les banquiers, etc., etc. Donc, l'État australien, en fait, canalise les flux d'investissement sur le pays, là où ça génère de l'emploi. Faire comme la métropole et dire aux gens, ben, venez acheter notre patrimoine, acheter tout ce que vous voulez, etc., ça ne fait qu'augmenter les prêts d'immobilier, c'est incontrôlable, et ça ne génère rien. Ça ne génère absolument rien. Là, les flux qui viennent de l'étranger, clairement, font travailler les entreprises. Et donc, quelque part, contribue au développement du pays.
Et ouais.
C'est d'une logique implacable.
Et ouais, ouais. Forcément, ça crée du neuf, ça crée.
Et quand il y a de la surchauffe au niveau du marché, ce qui a été le cas sur Sydney, ce que j'avais dit il y a quelques minutes, très bien. Comme le gouvernement contrôle les autorisations données aux étrangers, on serre la vis et on vend moins. Et donc, du coup, il y a moins d'étrangers, le marché se ralentit, ouais. Il y a moins de projets.
Le fait de mettre 6% de frais d'acquisition, ça peut.
Alors, c'est surtout en donnant des autorisations, parce que aujourd'hui. Vous ne pouvez pas acheter un bien sans l'autorisation préalable du gouvernement,
okay.
Quel que soit le bien.
Toi, tu fais une demande personnelle.
Exactement. Chaque investisseur doit demander l'autorisation du gouvernement.
Un dossier, j'imagine, comme si tu allais voir la banque pour investir.
Exactement. Donc ça, c'est le rôle du notaire.
Okay.
Donc c'est transparent pour le client. Il n'a pas grand-chose à faire. Mais si le gouvernement décide que on va baisser de 20, 30 ou 40% les acheteurs étrangers. Ou de dire, bah, tiens, dans la ville de Sydney, on va diminuer de 50% pour les pousser un petit peu sur Melbourne ou sur Brisbane. Ils le font.
Okay.
Ils contrôlent les flux.
Ouais, ils ont une maîtrise de...
Ils contrôlent les flux et ils orientent l'investisseur là où ils ont besoin d'investissement.
Okay, okay.
Sinon, ce sera un peu comme en France où tous les investisseurs étrangers achètent sur Paris.
Ouais.
Aucun intérêt. Sinon, de faire gonfler les prix aucune valeur ajoutée.
Et ouais. Et ouais, c'est vrai, hein. On n'a pas cette logique du point de vue de l'État, justement, mais qui est très différente, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du financement?
Oui.
Moi, je suis à Nouméa, je veux investir dans un bien à Brisbane, par exemple, un petit F2. Est-ce que je peux emprunter? Alors, est-ce que dans une banque australienne, dans une banque française? Et à quelles conditions?
Alors, aujourd'hui, chaque cas est particulier puisque chaque personne a ses conditions d'emprunt qui lui sont propres. En Nouvelle-Calédonie, les banques, de façon générale, traitent les dossiers au cas par cas. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse générale. Des banques prêtes, si vous avez une grosse signature, sont moins enclins à prêter si vous avez une petite signature.
Donc, il faut un apport.
En fait, l'idée,
bon dossier,
voilà, l'idée, c'est même pas ça, c'est d'avoir en fait la capacité de donner en garantie un bien qui est libre de toute hypothèque.
Ok. Équivalent, je dirais.
Donc c'est un crédit hypothécaire.
Ok.
Et qui est plus ou moins l'équivalent de ce que vous voulez acheter en Australie. Donc si vous voulez acheter quelque chose qui vaut 500 000 $, il faut être capable de donner en garantie l'équivalent de 500 000 $ dans le pays d'origine à la banque qui va prendre son hypothèque. Et qui, auquel cas, fera un prêt hypothécaire, tout simplement.
Okay.
Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est effectivement, parce que j'ai pas mal de clients expatriés, eux empruntent directement sur des banques européennes.
Ouais.
Et là, pareil, ils font leur analyse. Chaque banque a sa façon d'analyser les choses. Ça dépend de l'apport, ça dépend de la surface. Donc, au cas par cas, je peux répondre. De façon générale, je peux pas répondre.
Ok, d'accord, je comprends. Ouais, donc c'est tout à fait possible à certains taux.
C'est tout à fait possible. Voilà,
après
ça
négocie avec sa banque.
C'est voilà, chacun ses conditions.
Et par contre, emprunter en tant qu'étranger dans une banque australienne, je crois pas que ce soit très intéressant d'ailleurs.
Non.
Et
alors,
c'est peut-être pas
oui
permis,
non.
Ou permis.
Ça n'est plus permis.
Okay.
Aujourd'hui, c'est plutôt les banques privées australiennes qui le font pour les étrangers. Avant, c'était le cas, ça ne l'est plus. Il y a des avantages et des inconvénients comme pour tout. Emprunter dans une banque australienne, ça a un gros avantage, c'est que vous empruntez dans la monnaie sur laquelle vous allez avoir vos revenus locatifs
et
sur lesquels vous allez payer une traite et tout un tas de frais. Donc si vous empruntez en dollars et que vous avez des revenus en dollars et que ces dollars ont servi à acheter un appartement en dollars, c'est quand même beaucoup mieux qu'avoir un crédit en euros que vous remboursez avec une traite en dollars pour un appartement qui est en Australie. Il y a des risques au niveau du taux de change qui sont énormes.
Et ouais,
énormes. C'est pour ça que tout à l'heure je disais sur le niveau des prêts, ça dépend de la situation de chacun. J'ai des clients en fait qui payent en euros une échéance et ils traitent ça comme si c'était à perte. C'est-à-dire que tous les mois ils payent un montant qui n'obère en rien leur train de vie ni quoi que ce soit, comme s'ils avaient acheté un bateau ou quelque chose pour se faire plaisir.
Okay.
Et donc ils payent cette traite en euros avec leur salaire en euros, alors que de l'autre côté on aurait eu l'appartement qui aurait été payé avec le crédit donc pris en métropole, mais avec un loyer qui tombe en dollars sur un compte en dollars et qui reste en Australie.
Ok, ouais, tout à fait.
Pour éviter le taux de change. Moins il y a de flux avec des conversions et mieux c'est.
Voilà. Et puis on n'est pas à l'abri d'un écart de change.
C'est exactement ça.
C'est un peu soit, imaginons, tu prends 10% ou au moins 10%, forcément, ça se ressentira dans la rentabilité.
Par exact. Même.
Et ouais. Est-ce que tu peux nous dire, au niveau des différentes gammes, des différentes catégories d'investissement qu'on pourrait faire, à partir de combien on peut investir sur des petites surfaces?
Alors,
peut-être
le moins cher que j'ai, sur du commercial, on est à 250 000 dollars australiens. Sur du résidentiel, on tourne autour de 3
000. Ça, c'est à Sydney même?
Oui, Sydney même.
Ok. C'est des petites surfaces.
Des petits bureaux, 20 mètres carrés.
Ok.
C'est très dur à obtenir. Quand j'en ai, j'ai une liste d'attente en permanence.
Okay.
C'est très rentable. Il n'y a pas d'entretien, il y a très peu de frais. C'est vraiment parfait. Pour rien vous cacher, en général, je regarde ma propre capacité d'endettement et j'achète pour moi.
Okay.
Et si éventuellement je suis pas prêt ou j'ai pas assez de cash, je le mets en vente auprès de mes clients.
Ok. T'en as.
J'en ai quelques-uns.
T'en as quelques-uns à signer déjà.
Ouais. Okay. C'est pas cher, ça rapporte énormément et cumulé, ça peut être très intéressant. Donc 250 000 dollars à peu près.
Juste en termes de loyer, du coup, pour qu'on... Bah, tout un monde ne connaît pas.
Ah, c'est pas compliqué.
Un ratio
10%.
Ok.
Le rendement locatif brut, il est 10% sur du commercial. Alors que sur du résidentiel, il est de 5%.
Ok, d'accord.
Donc, sur des appartements, les premiers prix, on est autour de 350 000 dollars. Et on est sur un rendement brut de l'ordre de 5%. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le commercial est beaucoup plus rentable en termes de cash que le résidentiel. Mais par contre, le résidentiel, tous les clients qui ont acheté avec moi à Sydney ces 10 dernières années ont fait des plus-values phénoménales.
Et ouais, parce qu'ils ont profité de la vague.
Voilà.
Alors, un dollar australien, c'est à peu près 0,6 € et 75 pour CFP. Grosso modo, 100 000 dollars australiens, ça fait 60 000 € à peu près actuellement, hein, et 7,5 millions francs CFP. Comme ça, les gens peuvent faire leurs calculs aussi.
Il y a des très bons logiciels sur Internet pour
oui,
ça.
Oui, oui.
Donc aujourd'hui, clairement, pour en revenir un petit peu à cette notion d'investissement, il faut investir là où il y a du potentiel économique. Donc, Sydney, c'est devenu trop cher. Donc, il faut aller ailleurs. Melbourne est en train de devenir trop cher. Donc, c'est trop tard. Le train est passé.
Yes.
Donc, maintenant, je m'oriente plutôt vers Brisbane et les zones limitrophes donc de Brisbane, c'est-à-dire dans le Queensland de façon générale, puisque les flux financiers sont là-bas, les investissements sont là-bas, les flux migratoires sont là-bas. Donc,
c'est la Sunshine Coast.
Sunshine, Brisbane, toute cette
région. C'est le nord et le sud de Brisbane. En
fait. Voilà, c'est ça.
Okay. Et on n'a pas parlé de Canberra.
Alors Canberra, c'est un marché à part. Canberra, c'est Washington.
Il me semblait.
C'est Washington. Donc personne ne veut vivre là-bas. Personne ne veut travailler là-bas. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas parce que les salaires sont les plus élevés d'Australie.
Okay.
Et les prix au mètre carré de l'immobilier sont les moins élevés d'Australie. Donc c'est là-bas qu'on gagne le plus et c'est là-bas qu'on paye le moins. Donc il y a, à mon avis, des potentiels très intéressants. Mais une fois de plus... C'est moche.
Ouais.
C'est très moche.
Mais bon, quand t'investis, tu t'en fous, je dirais.
Oui, mais ça, c'est la discussion qu'on a maintenant. Malheureusement, la grande majorité des clients...
Je pense que ça va changer, que les gens vont partir, vont finir par partir de là-bas.
Non, mais j'ai beaucoup de mal à convaincre mes clients de regarder ce marché-là parce que ça leur plaît pas, c'est moche. Quand ils regardent sur Internet, ça leur plaît pas. Parce qu'il y a toujours une part émotive dans une acquisition et cette part émotive sur Canberra est très négative. Alors que d'un point de vue investissement, pour rien cacher, mon prochain achat sera sur Canberra.
Ok, bah ouais, enfin. Yeah.
C'est pas cher, les gens gagnent beaucoup.
C'est vraiment que l'intérêt financier.
C'est le poumon économique, politique plutôt du pays, donc il y a tout à faire.
Tu penses que ça va rester un potentiel économique fort par rapport à.
Parce que c'est tellement peu cher. C'est tellement peu cher qu'il y a un gros potentiel.
Et les Australiens n'investissent pas.
Non, parce qu'ils sont, tous pareils. À part les gens de Canberra eux-mêmes.
Ok.
Et encore, en plus, les gens sont. Une fois de plus, c'est les motifs. C'est-à-dire que quand ils investissent à Canberra, pour eux, l'investissement idéal, c'est d'acheter une maison.
D'accord.
Du coup, il n'y a pas d'appartement.
Ok.
Il y a une pénurie constante d'appartements.
D'accord. Donc, ils construisent du neuf, j'imagine. Enfin, quand même.
Donc, le peu d'appartements qu'il y a, aujourd'hui, il n'y a pas de demande d'investisseurs. Alors qu'il y a une demande locative. Tout le monde n'a pas les moyens de payer une maison. Il y a une demande très forte. Mais il y a très peu d'offres. Et pour moi, ça, c'est une situation idéale d'investissement. Malheureusement, une fois de plus, les investisseurs, que ce soit mes clients ou même les Australiens, ne voient pas de cette façon.
Okay.
Très bien. Ce qui est déceptif pour les uns sera positif
ça
pour les autres.
Ça peut être une opportunité pour les
Exactement.
Autres.
Exactement.
Est-ce que tu peux rapidement, parce que c'est vrai que c'est très différent, hein, la manière d'investir en Australie, nous résumer un peu les quelques étapes qui permettent à un étranger d'investir en passant par exemple par ton agence?
Alors déjà, c'est de prendre la décision. C'est à mon avis le point clé. C'est de se dire, est-ce que je veux diversifier? Ensuite, d'avoir un calendrier, de se dire, je vais faire ça dans quelle période? Ensuite, d'avoir un budget, évidemment. Et à partir de ça, moi, je m'adapterai au client. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment le point clé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Prenez vos décisions. Et une fois que vous avez pris vos décisions, la transaction est très simple. Très, très simple. Et en français.
Ok.
Très, très simple. Okay. J'ai des clients qui atterrissent à 9h du matin. On a rendez-vous, on fait un point. Ils redécollent à midi, ils sont propriétaires.
Ok.
Ça n'existe pas dans le système français.
Ça, tu le fais à partir... Parce qu'en fait, comme c'est du neuf, tu vends sur plan.
Exact.
C'est en VFA, en fait. Hein, finalement.
Alors, c'est différent. C'est très, très différent. C'est-à-dire que le principe de l'achat, donc de la vente en état futur d'achèvement, VFA, est différent en Australie. En Australie, vous achetez un appartement sur plan, vous ne versez que 10%.
Okay.
Les 10% sont mis sur un compte séquestre rémunéré et vous n'êtes redevable de la totalité, moins les 10% déjà versés, qu'à partir du moment où l'appartement est livré avec le certificat de conformité de la mairie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun paiement pendant la construction.
Okay.
Ça veut dire pas d'agent intercalaire, pas de pré-relais. Ça veut dire pas de Socotec ou Veritas pour aller vérifier que la tranche de paiement qui est demandée correspond à... Non. Le promoteur fait faillite, tant pis pour lui. Les 10% vous seront remboursés parce qu'il ne les aura pas touchés. Ils sont sur séquestre.
Ouais, c'est séquestre chez notaire. Par rapport aux notaires ou aux avocats,
voilà.
Comme c'est là-bas. Hein.
Voilà, donc c'est sur séquestre, sous séquestre, pardon. Et le promoteur est en retard, bah, très bien, c'est pas votre problème, de toute façon vous avez rien payé.
Ouais.
Au contraire, les 10% ont continué à générer de l'argent. Et autre chose aussi qui est importante, c'est que vous achetez un appartement qui vaut 100 € aujourd'hui sur le marché, et donc qui est vendu par rapport au marché aujourd'hui sur plan, qui va vous être livré dans 2 ans, sur lequel donc vous avez versé 10%, donc 10 €. Mais votre bien, il va se valoriser pendant la période si le marché augmente.
Ben, bien sûr.
Et il va se valoriser sur la base de 10% que vous avez mis de votre poche. Donc vous valorisez sur 100% de la valeur en n'ayant mis que 10%. Et en plus de ça, on vous donne les intérêts de vos 10% à la fin de la transaction.
Bah ouais, parce que le prix, lui, va pas augmenter pendant la construction.
Voilà.
Tu signes un prix fixe, quoi. J'imagine.
Voilà. Donc, vraiment tous les avantages.
Ah, c'est pas mal.
En Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, ça arrive que des promoteurs fassent faillite. En Australie, nous, on n'a pas ce problème-là. Parce que c'est lui qui va porter le coût financier de l'opération.
Ah, il porte le risque entier.
Il porte le risque entier. Alors, c'est pas un philanthrope. Le risque, c'est quoi? C'est que lui, il va payer la période de construction et les intérêts qui sont liés à ça. Et lui, il va faire ses calculs à l'origine et les mettre dans le prix de vente.
Okay.
Il n'y a pas de philanthropie. Mais au moins, l'acheteur est protégé du vendeur, du promoteur, parce que bah, vous payez rien.
Ouais, ouais. Ce qui est pas mal quand t'es étranger et tu connais pas le pays.
Exactement. Il n'y a pas de risque.
Tu rentres sur place.
Vous ne pouvez pas vous retrouver en plein milieu d'une construction et dire bah, j'ai un appartement à moitié construit, j'ai versé la moitié des fonds, qu'est-ce que je deviens ?
Tu ne vas pas aller un samedi vérifier le chantier.
Voilà. Ça n'existe pas. Chez nous, ça n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros avantage.
Yes. Et donc, tu payes les 90% restants quand ton appartement est terminé. Quoi. L'immeuble est terminé et tu peux
aménager. Certificat de conformité. Okay. C'est-à-dire que la mairie est bien et dit que l'appartement est vivable. Il correspond au plan, il correspond au permis de construire. Et donc, le hall, etc. Il présente toutes les conditions de sécurité, etc. Vous pouvez vivre dedans. Et c'est seulement à ce moment-là qu'effectivement, on vous demande les 90% restants. Et si par malheur, votre situation a changé, parce que ça arrive, en 2 ans, 3 ans de construction, il peut y avoir un divorce, un décès, une faillite, que sais-je.
Ouais.
Et vous pouvez pas aller de l'avant. Le promoteur récupère le titre de propriété et garde votre 10%.
Voilà, terminé. Ouais.
C'est fini.
C'est
le jeu.
Ouais, c'est ça, c'est le dépôt de garantie. Quoi.
Exactement.
En tout cas, c'est très très intéressant tout ça. Je pense que les auditeurs vont apprendre beaucoup de choses. Et ça va peut-être leur donner envie justement de goûter au marché australien. Parce qu'il fait beau, il n'y a pas d'hiver, il faut le préciser. En tout cas, dans la zone où tu investis, à Sydney, il y a quand même un hiver, mais Brisbane, c'est quand même plus. Plus clément.
Alors, l'Australie, c'est un continent, donc il y a des climats qui sont complètement différents d'un endroit à l'autre. Oui, pour moi, le climat, c'est pas quelque chose qui rentre en jeu dans l'investissement. Ce qui rentre en jeu, une fois de plus, c'est les réalités économiques, c'est ce qui se passe, c'est les chiffres. Sûr. C'est la seule chose qu'il faut regarder. C'est un petit peu comme dire Canberra, ça m'intéresse pas parce que c'est pas beau.
On n'a pas parlé des résidences principales ou secondaires. Tu disais qu'on pouvait investir pour y habiter. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir pour acheter leur résidence secondaire là-bas?
Oui.
Ou est-ce que, en tant qu'étranger, tu peux investir, enfin, je dirais, devenir entre guillemets résident australien?
Alors, la notion de propriété n'a rien à voir avec le visa. C'est deux notions qui sont complètement différentes. Donc, vous pouvez avoir des centaines de millions d'euros d'investissement en Australie, c'est pas pour autant qu'on va vous permettre de vivre en Australie. Ça n'a rien à voir. C'est deux notions qui sont complètement différentes.
Ok. Donc, il y a des critères de visa et c'est assez compliqué, je crois.
C'est compliqué. C'est pas mon métier. Okay. C'est pas mon métier. Maintenant, vendre des résidences secondaires, je le fais. Effectivement, il y a des gens qui viennent 3 mois par an, 6 mois par an, en vacances ou de temps en temps.
C'est des visas de touristes.
Voilà, sous forme de visa touristique et qui profitent de leur appartement quand ils sont en Australie, comme certains viennent en profiter dans un hôtel.
Ok. Ouais. Je vais te poser les 3 questions que je pose en fait à chaque fin d'interview. Est-ce que tu peux nous citer une référence qui t'a inspiré dans ton parcours? Ça peut être un livre, un auteur et que tu souhaiterais me faire partager.
Un livre, c'est L'Art de la Guerre, que j'adore.
Ok. On n'avait pas cité encore celui-là. C'est Sun Tzu.
Ouais. Donc L'Art de la Guerre.
Tu l'aimes pourquoi en fait ce livre?
Parce qu'il s'adapte à tout. À tout, absolument à toutes les situations.
Ok.
Soit personnel, professionnel, financier, tout, qu'importe.
C'est la stratégie.
C'est absolument incroyable comme livre. Okay. Une simplicité absolue.
Un proverbe ou une phrase inspirante qui te plaît, en français ou en anglais.
Ok, j'adore cette expression anglaise qui dit The sky is the limit. Donc, en fait, il n'y a aucune limite.
Yes.
Tout est possible, il suffit de le vouloir.
Ouais. Je valide aussi. J'ai un t-shirt avec cette expression d'ailleurs. Je ne l'ai pas là, mais... Yes. Du coup, dernier conseil que tu dirais-tu à un investisseur ou une personne qui souhaiterait investir en Australie, du coup, je l'adapte un peu à ta situation, mais qui n'ose pas se lancer par peur. Donc, c'est les peurs, hein, la distance, les problèmes de langue. Bon, tu as en partie répondu. Les problèmes de gestion du bien, l'administratif, qu'est-ce que tu peux... Voilà.
Envoyez-moi un email ou contactez-moi.
Ok, bon. Clair et simple, je dirais. Du coup, est-ce qu'on peut te contacter? T'as un site internet?
Donc, il suffit de taper agence francophone sur Google ou Lionel Roby, R-O-B-Y sur Google.
Yes.
Je suis ou même utiliser des mots classiques, investissement en immobilier, Australie... Ouais. Qu'importe, très facile à me retrouver.
Agencefrancophone.com.
Voilà.
Ton email aussi, c'est info@agencefrancophone.com.
Ouais, tout simplement. Ça.
Et on pourra mettre ton numéro de téléphone aussi si tu.
C'est sur mon site.
C'est sur le site, exact. Ok, super. Du coup, les gens savent où te trouver.
Voilà.
Et s'ils veulent aller plus loin, est-ce que tu souhaites. La parole est à toi. Tu souhaites ajouter quelque chose, une offre promotionnelle par rapport à ton avis.
Tout à l'heure, on a parlé d'un hôpital, le plus grand hôpital jamais construit en Australie. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le troisième plus gros hôpital de l'hémisphère sud, de mémoire. Donc c'est énorme, c'est une ville quasiment. Et là, j'ai des appartements qui sont à 500 mètres. Alors il est clair que c'est pas pour habiter dedans. Mais la demande locative est très forte. Pour rien cacher, je suis un des premiers acquéreurs d'appartements là-bas. Donc la toute première tranche, les tout premiers immeubles, je suis dedans. Et les rendements sont excellents et le taux d'occupation est proche de 100%. On a un locataire qui part, je dirais 24 heures après, le nouvel locataire rentre. Ouais,
ouais. Rien que la demande,
voilà, c'est ça. La demande est très très forte, ouais. Que soit le personnel administratif, les accompagnants ou les malades. Puisque c'est un hôpital qui est spécialisé dans les maladies longues.
Ok, ok.
La demande est très forte et c'est un très beau projet.
Ok, super. Donc c'est en ce moment.
C'est en ce moment. Et puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus.
Yes, ok, super.
Et là, on est sur les dernières tranches.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage d'expérience.
Pas de souci.
Le temps que tu as pris pour faire cette interview, voilà, tous les conseils que tu as pu nous donner. On découvre avec toi ce côté de l'Australie là qu'on ne connaissait pas. Merci encore et puis je te dis à peut-être à bientôt pour notre interview.
Ok, avec plaisir.
Salut.
Salut.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service ? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao.